Monsieur Munier, qui est CNRS, donc directeur de recherche, spécialiste tectonique, géomorphologie et des relations qui existent entre ces deux disciplines, qui va vous parler donc de l'évolution du relief sous l'effet des processus d'altération.
Bien, eh ben, bonjour à tous d'abord. Alors, comme vous voyez, je suis directeur de recherche, donc en fait, je ne suis pas enseignant. Alors, finalement, j'étais très embêté quand on m'a demandé de faire cet exposé, parce que... comment vous expliquer ce que je fais et comment vous faire passer un message pédagogique. Finalement, j'ai choisi d'essayer d'illustrer comment je travaille en vous donnant les concepts principaux. Alors, la première question, c'est comment décrire le relief ? Alors, très classiquement, on parle de montagne jeune, de montagne vieille. Et pourquoi est-ce qu'on parle de montagne jeune et de montagne vieille ? Alors, si on pose ce genre de questions à un enfant, il pourra peut-être vous répondre d'une manière exacte. Après, si on regarde ses arguments, les arguments sont très intéressants. Dans le fond, il y a un fond de vérité, hein, puisqu'il va vous dire que les montagnes vieilles, finalement, c'est des endroits où il y a peu d'énergie qui sont mis en place. Alors que les montagnes jeunes, c'est des endroits où il y a beaucoup d'énergie qui sont utilisées. Oh, bon. Enfin, ceci dit, en tant que scientifique, ce que j'essaye d'avoir, c'est un raisonnement qui ne soit pas fantaisiste. Et à la défaut d'être exact, au moins, utiliser des concepts que j'explique avant de décrire les choses. Donc, je vais vous présenter très brièvement quelques éléments pour définir du point de vue conceptuel l'évolution d'une interface qui est le relief. Hein. Le relief, c'est l'interface entre la Terre solide et son atmosphère. Et après, je vais vous illustrer quelques exemples pour montrer la diversité des reliefs, donner un ordre de grandeur de vitesse d'évolution de ce relief, et puis souligner quels sont les processus élémentaires les plus importants. Donc, le relief, c'est une interface entre la Terre solide et son atmosphère. Mais par définition, d'abord, le relief, on dit que c'est une... Ah, je l'ai raté. Bon, je crois qu'il ne marche pas définitivement. C'est pas grave. Le relief, c'est une différence d'altitude, en fait, entre, par exemple, le sommet et ce niveau-là. Alors, une altitude, en fait, par définition, c'est la différence entre cette hauteur-là et le niveau de la mer. Donc, très souvent, j'utiliserai le mot altitude plutôt que relief pour simplifier les choses. Alors, au cours du temps, l'altitude d'une montagne peut changer. On vous a parlé de tectonique pendant une heure et demie tout à l'heure. Et cette tectonique, c'est une tectonique horizontale, d'après Argan, il a certainement raison, je ne mettrai pas ça en cause, mais je vais être très simple. Aujourd'hui, pour moi, la tectonique, en termes de relief, ça fait des mouvements verticaux, ce que je vais appeler surexion. Et ceci dit, ma montagne va augmenter de taille, il y a un gain de matière grâce à la surexion. Et puis, il y a un autre phénomène qui se produit, c'est ce qu'on appelle globalement l'érosion. Il y a de la matière qui va partir, qui va faire diminuer l'altitude. Bon. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on a les deux processus en même temps ? À la fois la surexion et l'érosion. Finalement, c'est le problème de la formation des montagnes. Alors, le problème n'est pas si simple que ça, en fait. Parce que, je vous dis, le relief, c'est une interface entre la Terre solide et son atmosphère. Une interface, on imagine bien ce que c'est. Mais en fait, cette interface, elle a une position qui évolue au cours du temps. Ça monte, ça descend. Et cette interface, ce n'est pas quelque chose de matériel, parce qu'au cours du temps, la matière va traverser cette interface. En mathématiques, c'est un problème de... de référencer l'Eulérien ou Lagrangien, mais d'une manière plus simple, la matière va changer de comportement au voisinage de cette interface. En fait, on a quatre types de roches au voisinage de l'interface. On a la roche mère, on a des sols, on a des clasts ou des sédiments qui sont là dans un contexte déposé. J'utilise le mot clast pour décrire des sédiments qui sont en cours de transport. Et donc, notre interface, elle va être affectée par des processus qui vont transporter la matière au travers de cette interface. Il y a l'altération, donc la roche saine va devenir un sol. Il y a l'érosion qui va arracher de la matière et la mettre du côté atmosphère momentanément. Enfin, atmosphère, en fait, ce n'est pas vraiment ça, mais cette matière, elle va être transportée. Donc, elle n'est plus du côté solide. Et puis après, elle va se redéposer. Donc, elle va repasser du côté solide. Donc, notre jeu, c'est de comprendre comment ces quatre types de roches affectées par différents processus vont faire évoluer notre surface, notre interface. Alors, je vais essayer de l'illustrer sur des exemples qui sont un peu des exemples extrêmes. Alors, les glaciers latéritiques de la ceinture tropicale, je vous en parlerai très brièvement parce que je ne suis pas du tout spécialiste de ce genre de problème. L'autre cas extrême, c'est le Nanga Parbat, qui a un sommet de plus de 8000 mètres. Et enfin, je vous parlerai d'un exemple intermédiaire qui est bien connu, c'est le massif du Mont Blanc. Et donc, je vais essayer, à partir de ces exemples, de vous montrer qu'on a des variétés d'entrées tectoniques très grandes. Dans le Nanga Parbat, la vitesse de surrection est de l'ordre du mètre par siècle, alors que dans les glaciers latéritiques, je ne vous parlerai pas de surrection, mais on sait que les vitesses d'évolution sont de l'ordre du millimètre par siècle, donc, ou inférieur à un millimètre par siècle. Donc, l'ordre de grandeur qu'on couvre, en fait, du point de vue vitesse d'évolution, c'est de 1 mm à 1 mètre, de 1 à 1000. Hein. Donc, ce qui explique qu'on va avoir des diversités de relief avec une telle variété dans les entrées tectoniques. Bien. Alors, les glaciers latéritiques de la ceinture tropicale sont en fait, tout autour de l'équateur, dans la zone tropicale. C'est habituellement développé dans des zones tectoniquement stables et sont caractérisées par des climats chauds et humides. Et donc, je vais brièvement vous illustrer ces glaciers latéritiques sur deux exemples, en Nouvelle-Calédonie et au Burkina Faso. Alors, voilà à quoi ressemble le relief dans ces zones-là. Alors, c'est un relief pratiquement plat. L'horizon est pratiquement plat, au loin. Par ailleurs, si vous regardez l'atmosphère, c'est une atmosphère humide. Hein. Des nuages dans un contexte chaud. Et au premier plan, cependant, là, donc, il y a une crête qui est comme ceci. Et il y a eu une incision qui permet de voir comment est formé le sol, en fait, et le bedrock. Le bedrock, c'est ces choses-là. Et tout ce qu'il y a entre ce bedrock et la crête, c'est ce qu'on appelle un sol latéritique. Alors, l'échelle, ici, c'est 10 mètres. Ce qui veut dire que dans ces contextes-là, le sol peut atteindre plusieurs dizaines, presque 100 mètres d'épaisseur. Donc, l'altération peut descendre très loin en profondeur. Donc, ces sols, on peut les étudier en détail et voir comment ils se développent depuis la surface, depuis une cuirasse, jusqu'à la roche mère qui n'a pas été altéré. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces sols, hein, mais par contre, si on fait du point de vue chimique ou minéralogique des profils à travers le sol, ce qu'on constate, c'est qu'on a des grandes différences minéralogiques et chimiques de la surface à la roche-mère en place. Initialement, c'était pratiquement homogène. Donc, ce qui se passe, c'est que la formation d'un sol, en fait, c'est lié à des transformations minéralogiques et chimiques. Et donc, et ça se passe parce qu'il y a de l'eau qui circule depuis la surface jusqu'à la profondeur. Et cette eau qui circule, non seulement elle induit une transformation, mais elle lessive aussi certains éléments minéralogiques. Donc, ces documents m'ont été fournis par M. Beauvais, d'ailleurs, de l'IRD, que je remercie. Donc, initialement, on a cette épaisseur de roche-mère. Sous l'effet de l'érosion chimique, il y a toute une partie de roche qui est dissoute, qui va former de la latérite. Donc, l'altération, c'est non seulement une transformation, mais c'est aussi une vraie érosion. C'est de l'érosion chimique, on va perdre de la matière. Ceci dit, les latérites, les sols sont souvent relativement friables et donc vont être facilement érodés par l'érosion physique. Et donc, qu'est-ce qui va rester, finalement? C'est des paysages de ce type. Ces gros blocs, c'est quelques blocs préservés dans un contexte altéré. Entre l'aspect chimique et l'aspect physique, en fait, on a une grande variété de paysages, hein, depuis des cuirasses latéritiques relativement préservées jusqu'à ce type de paysage assez énigmatique au premier regard. Bien, alors moi, je ne vais pas vous en parler beaucoup plus parce que j'aime bien les choses rapides, en fait, qu'on peut voir évoluer au cours du temps. Or, si on regarde la vitesse de ces transformations minéralogiques, donc là, on a mis en Y les épaisseurs de roches dissoutes et la quantité d'oxyde de fer évacuée au cours du temps. Ce qu'on voit, c'est que pour obtenir à peu près 12 mètres de dissolution, enfin au moins d'évacuation des oxydes de fer dans un granit, il faut de l'ordre de quelques millions d'années. Ça sera un peu plus rapide pour des amphibolochistes, mais dans tous les cas de figure, la vitesse de formation de ces sols, ça se compte en millions d'années. Ce qui conduit à des vitesses d'érosion chimique très inférieures au millimètre par siècle. Donc l'altération, c'est une évolution extrêmement lente du relief, mais ceci dit, c'est aussi une mémoire à long terme. Donc je vais vous parler donc de l'autre cas extrême, c'est quand est-ce que le relief évolue le plus vite. Alors, c'est probablement un des cas où le relief évolue le plus vite, le Nanga Parbat. Son altitude, c'est 8126 mètres. C'est un sommet de l'Himalaya, enfin, tout à fait à la limite de l'Himalaya, en fait, parce que c'est à l'extrême ouest de l'Himalaya, ici. Parmi les 8000, les alpinistes vous diront que c'est sans doute un des plus difficiles au monde, parce que les faces sont les plus hautes et les plus raides. La face ouest, ici, et la face nord-est, de ce côté-là. Le col le plus est situé, quelque part par là, est situé à plus de 4600 mètres par rapport au sommet. Donc, en termes de définition du relief, c'est la différence d'altitude sur la distance horizontale la plus courte, c'est sans doute un des reliefs les plus élevés au monde, en fait. Bon, c'est en Himalaya, le Nanga Parbat, mais ceci dit, c'est une structure du point de vue tectonique très singulière. Je ne vous en parlerai pas de l'aspect tectonique aujourd'hui. Bon, la tectonique himalayenne est clairement liée à une convergence, à des déplacements horizontaux de deux plaques. Mais si on regarde le Nanga Parbat lui-même, donc ça, le Nanga Parbat, c'est ce qui est compris en fait dans cette faille un peu. Enfin, il y a deux failles, il y a plusieurs failles, mais le Nanga Parbat, c'est cette partie-là. Et si on fait des mesures GPS pour mesurer les déplacements actuels, qu'on peut mesurer avec une précision millimétrique, donc on peut mesurer des vitesses de l'ordre du millimètre par an, et qu'on prend comme point de référence un point de référence à l'ouest du Nanga Parbat, les points à l'est, par rapport à ce point de référence, ont très peu bougé. Ça, ces ellipses, c'est les ellipses d'incertitude. En fait, on n'est pas capable de mesurer le raccourcissement à travers le Nanga Parbat. À l'intérieur même du Nanga Parbat, il y a des déformations. Hein. Mais en fait, le Nanga Parbat, c'est une sorte de relief qui s'élève au-dessus du plateau tibétain avec une composante tectonique horizontale minime et par contre une composante verticale, la surexion, importante. Donc on coupe le massif du Nanga Parbat ici. On peut montrer avec des critères métamorphiques qu'il manque plus de 20 km de croûte qui ont été enlevés par l'érosion. Bon, vous avez eu, juste avant la pause, un exposé montrant qu'il y a des méthodes extrêmement efficaces en thermochronologie et en métamorphisme pour estimer ces grandeurs. Donc, 22 km d'érosion, ça veut dire qu'on a enlevé toute la croûte supérieure et que ce qu'on voit apparaître maintenant, c'était en position de croûte inférieure. Il n'y a pas si longtemps que ça, enfin, à l'échelle géologique. Alors, quand on remonte de la croûte inférieure très rapidement, on forme des granites même par décompression. Alors, ces granites sont remontés très vite, ils sont très déformés, mais on peut montrer qu'ils ont été formés, on les datait, et ils ont été formés entre 1 et 10 millions d'années. Ils sont maintenant en surface. Voilà. Quoi ça ressemble quand vous êtes dans la face, c'est pas moi hein, qui était. Le glacier est en dessous, là, au fond. Donc, ces parois granitiques très récentes. Le granit a moins d'un million d'années, il a été formé en profondeur à une dizaine de kilomètres au moins de profondeur, et là, vous êtes à 6000 mètres d'altitude. Donc, vous avez des vitesses d'exhumation exceptionnelles, en fait, dans ces zones. De l'ordre de 6 à 10 mm par an, si on utilise ce genre de critères d'exhumation des granites. Alors, l'autre singularité du massif du Nanga Parbat, c'est qu'il est drainé par une rivière, une très grande rivière, l'Indus. Alors, le Nanga Parbat est situé ici, en fait, à la limite entre l'Inde et le Pakistan. Et l'Indus donc, coule à travers tout le Pakistan, traverse le Nanga Parbat et va ensuite couler en Inde, avant de couler en Chine. Donc sur cette carte locale du massif du Nanga Parbat, l'Indus est ici et va traverser complètement le massif à ce niveau-là. Et en traversant le massif, l'Indus forme des gorges extrêmement profondes. Bon, il y a plus de 6500 mètres de différence d'altitude entre le sommet du Nanga Parbat et la rivière. Et si vous regardez les versants, ils sont extrêmement raides. Alors ça, c'est une signature morphologique qui est liée à notre surexion très intense. C'est ce qu'on va étudier plus en détail. Alors là, à ce point de vue, on est exactement ici, à l'intersection de plusieurs rivières et de plusieurs massifs, en fait. D'un côté, ici, vous avez l'Himalaya, donc on est tout à fait à la terminaison de l'Himalaya, et de l'autre côté, on a le Karakoram. Et bon, sur cette photo, vous voyez très bien l'Indus en bas, Ce que vous voyez ici aussi, c'est une surface horizontale. Il y en a une autre aussi un peu plus loin, qui est un peu plus difficile à voir, qui est ici. Et puis aussi, on devine aussi là une autre surface horizontale. Alors, toutes ces surfaces, en fait, elles sont recouvertes de sédiments fluviaux. C'est des anciens cours de l'Indus. Alors, comment est-ce qu'on retrouve des sédiments de l'Indus à ces endroits-là et à quoi ça ressemble dans le détail? En fait, sous ces galets, on trouve du bedrock, qui parfois émerge comme des... Ici, il y a un petit îlot rocheux à travers cette plaine de galets. Donc, il y a un ancien cours de l'Indus. Et ces îlots rocheux, si vous les regardez en détail, ils sont constitués de roches abrasées et polies, avec ces morphologies très caractéristiques. On a frotté dessus pendant très longtemps. Enfin, le « on », c'est en fait c'est les galets qui sont là et qui ont été roulés par la rivière. Donc, cette rivière, l'Indus, ou le Paléo-Indus, suivant l'époque à laquelle on considère, elle a transporté les galets, c'est donc un agent de transport pour notre problème érosif. Et puis en même temps, localement, ça a été un agent érosif, puisque en transportant les galets, elle a usé nos surfaces polies. En fait, c'est ce qui est représenté schématiquement ici. La rivière, surtout une rivière comme l'Indus, en fait, a une... lame d'eau qui est très importante, et à la base, le déplacement de l'eau va entraîner les galets qui vont sauter et rouler. Et en roulant, ils vont frotter sur le substratum. C'est ce qui va induire au long terme ce qu'on appelle une incision verticale. La rivière va s'inciser à travers les roches. Alors, si on incise la rivière, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on voit des paléocours de l'Indus? En fait, c'est que lorsque la rivière incise, elle a tendance à inciser verticalement, mais il y a aussi certains moments où elle va inciser latéralement, elle va attaquer les bords, elle va se déplacer latéralement, ce qui explique que l'ancien cours de l'Indus était là, et puis l'Indus s'est déplacé latéralement, et à inciser verticalement ici. Donc, il faut pour conserver des paléocours, il faut à la fois avoir une incision latérale et une incision verticale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces paléo-indus peuvent être datés. Donc, on a des surfaces érodées qui correspondent à l'ancien paléo-indus. Alors, en surface, ça a cet aspect-là. Donc, il y a les aspects morphologie d'érosion par les galets, mais en même temps, il y a aussi une altération très limitée qui se produit, puisque vous voyez ces plaquages brunâtres. Et surtout, il y a des transformations atomiques qu'on ne va certainement pas voir sur le terrain, mais qui se produisent. Sous l'effet du rayonnement cosmogénique, en fait, le quartz, qui est compris dans ces granites ou ces faciès, va, en quantité très limitée, mais localement, être transformé. En fait, le bombardement par le rayonnement cosmogénique va transformer des atomes de silicium en atomes de beryllium, avec du beryllium-10. Donc, notre silice va être transformé en oxyde de beryllium. Et en étant capable de mesurer l'oxyde de beryllium est un truc un peu exceptionnel, surtout pour le beryllium-16. Donc en mesurant la quantité de beryllium-16, en fait, on va avoir une façon de dater l'exposition de la surface. Et donc, en fait, dater le paléocours de l'Indus. Alors là, cette première surface, elle est située 60 mètres au-dessus de l'Indus actuel. Et on peut estimer son âge à 5 milliers d'années. Donc, en faisant une très simple division, 60 par 5, on a la vitesse d'incision verticale moyenne sur cette période de l'ordre de 12 mm par an. Donc là, en bleu, j'ai représenté un peu le niveau que devait avoir le Paléo-Indus à ce niveau, à ce moment-là. On peut faire pareil pour la surface un peu plus haute, donc, que j'ai représentée ici. Ça veut dire que là où on a pris la photo, on était pratiquement sur la surface qu'on est en train de dater. Elle a été datée à 8 milliers d'années. Elle est située 80 mètres au-dessus de l'Indus. Donc, très simplement, l'incision est de l'ordre de 10 mm par an. Bon, ce jeu, on peut le faire sur le maximum de morphologie. Ici, la plus haute à 135 mètres, datée à 12 000 ans. Bon, ce qui donne une vitesse un peu moyenne, un peu plus rapide. Je n'ai pas mis de barre d'erreur là-dessus, mais il y en a. Simplement pour simplifier les choses, et j'ai mis les chiffres. Donc, notre massif du Nanga Parbat est incisé à une vitesse de l'ordre de 10 mm par an, ce qui est à peu près l'ordre de grandeur de la vitesse de surrection envisagée à partir des granites. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, qu'on a ces ordres de grandeur du même ordre ? Ça a une signification par rapport au profil en long de l'Indus. Le profil en long de l'Indus résulte d'un équilibre entre la surrection, qui a tendance à l'élever, et son incision, qui a tendance à l'abaisser. En fait, une capacité d'incision d'une rivière, telle celle de l'Indus, est très importante. Elle va être fonction de son débit et de la pente. Alors, si la surrection augmente, la pente de la rivière va augmenter, son incision va augmenter. Comme son incision augmente, elle va augmenter jusqu'à être égale à la surrection. Et on obtient ainsi une sorte de profil d'équilibre. Ce profil d'équilibre, il est aussi fonction de la quantité d'eau. Alors, comme il y a de plus en plus d'eau vers l'aval, il y a besoin de moins de pente pour obtenir cet équilibre. Ce qui explique que les profils des rivières sont, sauf exception, des profils concaves. On exprime en fait un équilibre entre deux entrées, l'entrée tectonique, la surrection, et l'entrée érosif, l'incision. Le fait qu'on ait un profil d'équilibre pour la rivière, ça a une implication, c'est qu'en fait, par rapport à son niveau de base, le niveau de la mer, l'altitude de la rivière va évoluer assez peu. Donc là, je vous ai parlé des rivières qui l'Indus, qui est situé ici. Alors, quels sont les liens entre la rivière et le sommet du Nanga Parbat ? Pour ça, on peut faire des profils topographiques à travers la chaîne. Le Nanga Parbat n'est pas une simple montagne, mais tout autour, il y a un massif, donc ça ressemble un peu à ça, le profil. Cependant, il y a une chose qui ressort de ce profil, c'est que les pentes sont très raides, mais dans les zones où les pentes sont très raides, en fait, elles sont relativement régulières. Ici, par exemple, ici aussi. Donc, ces pentes régulières, on va essayer de comprendre pourquoi elles s'établissent. Pour ça, il suffit d'appliquer un concept très simple qui est celui de pente critique des versants. Alors, si vous regardez une moraine, un versant affecté par de la cryoclastie, où il y a plein de blocs en fait, posés dans de la neige et sur du substratum. Si vous regardez un éboulis, ou même si vous regardez un écroulement, tous ces objets sont en fait constitués d'une sorte de tas de blocs de taille variable et indépendants les uns des autres. Et ils se comportent de la même manière qu'un terril qu'on alimente par le haut. Et ce terril qu'on alimente par le haut, il a des pentes régulières qui expriment une pente d'équilibre critique d'un milieu granulaire, en fait. Et cette pente d'équilibre critique, suivant le milieu, la façon dont les blocs sont organisés, leur granulométrie est variable, mais il est en général supérieur à 30 degrés. Et il faut noter que ce concept, on voit bien l'analogie entre cet éboulement et un tas de sable, à la limite, c'est simplement un problème de dimension des particules, mais ça s'applique pratiquement aussi pour la roche très fracturée, même si elle semble en place, en fait. Si vous faites ce profil à travers le glissement de Séchilienne, un grand glissement alpin, la pente des éboulés est ici, la pente du substratum fracturé dont provient tous les éboulis est peu différente, en fait. Les milieux rocheux très fracturés se vont se comporter comme un empilement de blocs, en fait, et le concept de pente critique s'applique aussi. Donc, on peut regarder à l'échelle du massif du Nanga Parbat comment les pentes des versants sont disposées. Là, donc, je n'ai pas la taille de la maille, mais ça doit être de l'ordre de la maille kilométrique. Et les chiffres correspondent aux pentes moyennes sur ces différentes mailles. Donc, on a là une répartition spatiale, et puis on peut en extraire une répartition statistique de cette valeur des pentes. Alors, très clairement, vous voyez apparaître un pic aux environs de 35, un peu au-delà de 35 degrés, et que l'on regarde les glissements de terrain, donc en pointillé, ou qu'on regarde toutes les pentes. Donc, ce qui tend à dire, c'est que ce qui contrôle la morphologie de nos reliefs dans un massif comme le Nanga Parbat, c'est une pente d'équilibre critique. Tous les reliefs, tous les versants ont été affectés par des glissements de terrain à une époque ou à une autre, et c'est eux qui ont contrôlé la pente actuelle. Alors maintenant j'espère vous avoir convaincu que les pentes des versants sont essentiellement contrôlées par un facteur, c'est la pente critique, la question qui se pose, c'est le couplage entre les processus d'érosion des versants et l'érosion du lit de la rivière. Alors si vous imaginez ici cette rivière avec un versant au-dessus, si le méandre augmente, c'est très facile d'imaginer que l'érosion va augmenter pour adapter la pente du versant à l'incision basale. Donc, à petite échelle, l'incision de la rivière va contrôler l'érosion de son versant au-dessus. À grande échelle, à l'échelle du Nanga Parbat, c'est pas très différent, en fait. On a un couplage entre les processus érosifs. S'il y a incision verticale du lit de la rivière, et on sait que ça se produit avec une vitesse de l'ordre de 10 mm par an, les versants vont réagir en s'écroulant de telle façon à maintenir une sorte de pente critique. Donc finalement, lever notre vallée, qu'on voit ici, il va s'enfoncer, mais il va être maintenu au cours du temps. Alors je vous dis qu'il s'enfonce, mais en fait, en même temps, la matière, elle remonte sous l'effet de la surrection à une vitesse à peu près identique à celle de l'incision. Donc, levée initiale ici, il va être maintenu pratiquement à la même altitude, et pourtant, il va être porté par de la matière qui n'est plus la même. On aura eu la matière qui a été soumise à un mouvement vertical, va avoir traversé notre topographie et se sera écroulée pour être évacuée par la rivière. Donc ici, un bloc diagramme du massif du Nanga Parbat avec les rivières principales ici. Si on fait un profil à travers donc, notre massif, schématiquement, ça ressemble à ça. Qu'est-ce que je viens de vous dire? C'est qu'en fait, l'altitude de la rivière était maintenue, la pente des versants était maintenue. Donc quand je dessine cette montagne simplifiée, la hauteur de la montagne va être fonction de quoi? Uniquement de la distance entre les grandes rivières. Si les rivières sont très espacées, eh ben, je vais faire des très hautes montagnes. Si les rivières sont très rapprochées, il y aura, mes sommets vont être moins élevés. Donc la hauteur du Nanga Parbat va être aussi fonction du fait qu'il n'y ait pas énormément de grandes rivières dans la région. En fait, ce que je vous décris, c'est une sorte de relief stationnaire. Le relief, au cours du temps, est toujours le même. Pourtant, la matière traverse ce relief. Alors, c'est quelque chose qu'on peut modéliser, en fait, dans des modèles analogiques essentiellement basés sur du sable, où on voit évoluer le relief, le réseau de drainage dans la boîte à sable quand on induit une surrection dans cette boîte à sable. Donc c'est des travaux qui sont menés à Rennes, ou qui ont été menés à Rennes par l'équipe de Lage. Et donc en quelques heures, ici c'est le temps, l'échelle horizontale c'est le temps en minutes, on voit comment évolue le relief dans notre boîte à sable, relief ici en centimètres. Alors, au début, le relief va augmenter puisqu'on a de la surrection jusqu'à atteindre un équilibre entre l'érosion et la tectonique, et l'altitude n'augmente plus. Bon, suivant les conditions expérimentales, en particulier la vitesse de surrection, l'altitude obtenue va varier. Mais globalement, on a donc un régime transitoire, puis un régime stationnaire. Et la question, c'est en géologie, je vous raconte une belle histoire, mais en fait, combien de temps ça se met à se mettre en place parce que je vous parle de granit qui ont été très rapides, mais qui ont mis quand même de l'ordre du million d'années pour aller en surface. Je vous parle de rivières qui ont incisé. Je suis très content d'être capable de les dater, mais c'est quand même des choses qui ont quelques milliers d'années. Donc, la comparaison est parfois difficile à faire. Donc ces modèles analogiques nous permettent de mieux comprendre comment relier les différentes échelles de temps. Ce qui semble, c'est quand même que pour obtenir des reliefs de l'ordre de plusieurs milliers de mètres, il faut plusieurs millions d'années pour obtenir un régime stationnaire. Alors le Nanga Parbat a eu une chance d'être en régime stationnaire parce qu'on est dans un contexte où tout est très rapide. La surrection est très rapide. L'Indus est une très grande rivière qui a la capacité d'inciser très rapidement. Mais dans un cas où la tectonique est moins rapide, en fait, le temps de mise en place du régime stationnaire sera plus long. Et finalement, peut-être que la tectonique globale va avoir évolué ou le climat va avoir évolué. Donc l'histoire que je vous raconte sera beaucoup plus complexe. Bien, alors maintenant je vais vous parler d'un autre exemple dont vous avez déjà bien entendu parler, c'est les Alpes. Alors le relief des Alpes, il va résulter de la tectonique alpine qu'on vous a détaillé précédemment. Ceci dit, pour moi, la tectonique alpine est terminée. Pratiquement depuis 4 millions d'années, il n'y a pratiquement plus de déformation. Actuellement, ça peut se mesurer. Si on mesure des champs de vitesse GPS, on n'est pas capable de mesurer le rapprochement entre l'Italie et la France. C'est inférieur au millimètre par an. Par contre, dans les Alpes, on est capable de mesurer la surrection. Et elle atteint plusieurs millimètres par an dans ces zones en Savoie, où elle dépasse 2 millimètres par an. Et donc, je vais vous parler plus spécifiquement du massif du Mont-Blanc, ici, donc, qui est affecté par une surrection actuelle de l'ordre de 1,5 millimètres par an. Alors c'est un peu anecdotique, mais il y a un point de mesure qui est installé au sommet du Mont-Blanc, enfin pas exactement au sommet du Mont-Blanc, parce que le Mont-Blanc c'est un sommet neigeux. Donc sur un des affleurements rocheux le plus proche du sommet du Mont-Blanc, il faut laisser les stations en place au moins 36 heures et faire des comparaisons entre des mesures faites à plusieurs années d'intervalle, pour obtenir des résultats où on met en évidence des déplacements de l'ordre de 1,5 mm par an, soit de l'ordre de 1,5 mètre par siècle. Donc, ce n'est pas tout à fait négligeable au long terme. Ceci dit, vous avez déjà dû entendre parler des mesures de la hauteur du Mont-Blanc et ça change par dizaines de mètres pratiquement. En fait, c'est que l'altitude du Mont-Blanc, quand on mesure le dôme neigeux, va beaucoup varier au cours du temps, puisque ce dôme neigeux, il n'est pas stable. Au XIXe siècle, un observatoire a été construit juste au sommet du Mont-Blanc. Quelques années plus tard, donc, la petite tourelle d'observation ici, c'est la seule chose qui dépassait. Le bâtiment s'est enfoncé dans la neige. Et sous la neige, il y a une petite calotte de glace. Je vous en parle là maintenant, c'est un peu anecdotique apparemment, mais en fait, vous verrez dans la suite que c'est très important. Alors le versant nord du Mont-Blanc, dans le détail, il est constitué d'un grand nombre de glaciers qui sont drainés par quelques torrents. Donc, je vais vous parler essentiellement du glacier Mont-Blanc-Bosson et des glaciers qui descendent du Mont-Maudit et du Mont-Blanc-du-Tacu. Et ces glaciers vont en fait avoir des exutoires dans plusieurs torrents. Donc ce versant qui est principalement glaciaire a quand même des zones supraglaciaires, des versants proglaciaires donc, qui dominent le glacier et des versants paraglaciaires qui sont situés juste en dessous des glaciers. Donc, actuellement, c'est une sorte d'observatoire pour essayer de quantifier les érosions dans un contexte glaciaire. Alors, pour cela, on se focalise surtout sur les sédiments qui sont transportés par les torrents, puisque les sédiments sont issus de l'érosion des parties amont. Et par ailleurs, à l'aiguille du Midi, il y a des observations aussi sur les blocs qui sont arrachés, sur l'évolution thermique des falaises. Alors les glaciers, c'est de la glace en mouvement. Et ceci dit, si on regarde la face nord du massif du Mont-Blanc, il y a deux types de glaciers. La partie haute, on a des tranches de glace très hautes, qui sont constamment gelés à la base et collés à la base. En fait, c'est un glacier froid. Par contre, dans les parties basses, la base a tendance à se réchauffer dû au gradient thermique terrestre. Et la température à la base, c'est 0 degré. Le glacier a tendance à légèrement fondre par la base. Alors, il s'équilibre et sa température à la base est toujours 0 degré, mais en même temps, il y a légèrement de l'eau. Donc, c'est ce qu'on appelle un glacier tempéré, qui est lubréfié par l'eau, et donc qui va glisser plus facilement. Alors, la vitesse de ces glaciers, on commence à savoir la mesurer à part géodésie spatiale. Surtout dans les zones où il y a beaucoup de crevasses. Donc ici le Mont Blanc, ici le bas du glacier des Bossons à peu près 1400 mètres, 1200 mètres. Et donc si on fait un profil à travers ce glacier, entre l'amont et l'aval, on peut estimer les vitesses de glissement qui varient entre 1 et 0,5 mètres par jour. Alors des fluctuations qui sont spatiales, donc ces fluctuations spatiales, elles sont fonction en fait de la pente du glacier, mais on a aussi des fluctuations temporelles. Alors les fluctuations temporelles, elles sont fonction du régime hydraulique à la base. Plus il y a d'eau, plus le glacier va s'écouler rapidement, en fait. Donc le fait qu'on ait des fluctuations temporelles, c'est important, c'est une façon de savoir si on est en glacier tempéré ou si on est en glacier froid. Et en fait, il semblerait que les glaciers froids descendent en dessous de 3800 mètres, peut-être jusqu'à 3400 mètres. Donc, dans cet environnement glaciaire, en fait, quand on parle d'érosion, il y a trois types d'érosion. Il y a l'érosion des versants rocheux, il y a l'érosion sous-glaciaire et l'érosion des versants aval, proglaciaire. Donc, on souhaite préciser l'efficacité relative de ces différentes composantes. Alors, l'érosion des versants proglaciaires, c'est essentiellement des écroulements. Ces écroulements ont des tailles très variables, hein, entre peut-être 50 000 mètres cubes pour les plus grands et moins de 100 mètres cubes pour les plus petits. Et si on regarde leur fréquence, les événements les plus gros sont exceptionnels et par contre, les petits événements se comptent par centaines, voire par milliers sur une année. Alors, tous ces écroulements finissent par arriver sur des glaciers, et le glacier est un agent de transport. Ici, vous voyez ce très gros bloc transporté par le glacier. Mais en même temps, le glacier, à la base, il frotte. Et donc, c'est un agent érosif. Alors, il va faire des sédiments très fins par frottement, c'est ce qu'on appelle la farine glaciaire. Il va aussi arracher des blocs grossiers par arrachement. Ces blocs grossiers étant situés à une interface en mouvement vont être broyés et très largement transformés en sable. Alors, pour essayer de comprendre cette érosion sous-glaciaire, il y a une façon facile de travailler, c'est d'utiliser comme critère la lithologie du substratum du versant glaciaire. Alors, le massif du Mont Blanc, c'est un pluton granitique qui est mis en place dans un encaissant gnésique. Et donc, le pluton granitique est ici à l'est, en rouge. La limite entre les deux, c'est la ligne blanche ici, qui passe à la base de l'aiguille du Midi, est pratiquement au sommet du Mont Blanc. Donc, à l'est, les granites, à l'ouest, les gneiss. Par ailleurs, notre limite glacier froid, c'est à ce niveau-là. Donc, si on regarde le glacier du Mont Blanc, par exemple, sa partie amont est essentiellement sur des granites, et par contre, sa partie aval est sur des gneiss. Donc on va utiliser la lithologie comme un critère d'identification de la source du sédiment. Alors comment faire, hein? Vous allez sur le glacier et vous regardez qu'est-ce qu'est granit, qu'est-ce qu'est gneiss. C'est des comptages visuels qui fonctionnent jusqu'à des graviers inférieurs au centimètre. En dessous, on n'est pas capable de reconnaître. Enfin. Mais déjà, on a le choix si on veut faire du comptage. Ceci dit, si on s'intéresse aux fractions plus fines, la géochronologie nous vient en aide, puisqu'on peut faire de la géochronologie sur des zircons, qui sont des tailles inférieures au millimètre. Et les granites du Mont Blanc sont associés à un événement très ponctuel, pratiquement voisin de 303 millions d'années. Les métamorphiques, donc les gneisses, ou il y a d'autres faciès, mais ont des âges plus anciens, en fait, puisque le granit est encaissant dans les métamorphiques. Donc en utilisant la géochronologie, en datant des centaines de zircons, on a aussi un moyen de faire de la source sur des sables à ce moment-là. Alors qu'est-ce qu'on va voir ? On va pouvoir suivre le cheminement des sédiments donc, autour de notre glacier. Alors, c'est ce qu'on appelle le transport supraglaciaire lorsque le sédiment est sur le glacier. Alors, on a des affleurements rive droite avec des écroulements de granit. Les blocs sont transportés par le glacier et on va les retrouver finalement dans la moraine rive droite du glacier des Bossons. Rive gauche, on a des affleurements de gneiss. Ces blocs vont... Il y en a moins que de granit. Et ben, ils vont circuler et être transportés par le glacier et ils vont arriver moraine rive gauche, qui est constituée essentiellement de gneiss. Pardon. Bon, finalement, le transport supraglaciaire, ce n'est pas très difficile à étudier, mais on fait pareil pour le transport sous-glaciaire, en fait. On regarde ce qui sort au niveau du torrent de Creuse, par exemple. Donc il faut aller ici et échantillonner ces blocs. Ou là. C'est essentiellement des gneisses. Alors d'où viennent ces gneisses ? Donc c'est l'érosion du substratum gnéissique. Et par contre, il n'y a pas de granit. Ça veut dire que cette partie du substratum n'est pas érodé. Et on fait pareil sur... Attendez, peut-être que... En fait, cette partie du substratum n'est pas érodée parce qu'on est sous les glaces froides. Donc, on prouve que notre glace froide, en fait, elle est collée au granit. Et donc, elle ne va pas l'éroder, mais au contraire, elle la protège de l'érosion. Alors, on fait pareil sur le torrent des Bossons. Et là, on va trouver à la fois des granites et des gneisses. Alors, pourquoi est-ce qu'on trouve les deux ? Bon, on a un substrat gnéissique sous le glacier qui est érodé. Facile d'expliquer le gneiss. Le granit, on vient de dire et de prouver sur l'autre torrent qu'on n'érodait pas le substratum granitique sous les glaces froides. Donc, ce qu'on retrouve dans le torrent, c'est des granites qui se sont écroulés sur le glacier, qui ont circulé sur le glacier et qui finalement ont traversé le glacier via les moulins. Les moulins, c'est des rivières qui coulent sur le glacier. Donc, celle-là est très conséquente, mais de toute façon, il n'y a pas de place pour déposer un galet là-dedans. Si le galet se dépose, il va faire fondre la glace autour et donc il va vite être entraîné. Donc, tout ce qui tombe sur le glacier et qui arrive dans un moulin, enfin, dans une rivière supraglaciaire, puis est entraîné par le moulin à travers le glacier et va ressortir finalement au front, sous le glacier. Donc, le schéma est le suivant, pas d'érosion sous le glacier froid, de l'érosion sous le glacier tempéré et un transport vers la base du glacier des classes tissus, des écroulements par les moulins. Donc on va pouvoir, maintenant qu'on a compris comment circulent nos sédiments en amont, on les mesure, on les quantifie à l'aval, en mesurant la matière en suspension, la charge de fond, aussi la charge qui en saltation, à quelques centimètres du fond. Une fois qu'on a la concentration en matière en suspension, qu'on mesure le débit de la rivière, on obtient le flux de sédiments par un produit concentration en matière suspension, débit liquide. Ces mesures, on les fait en continu. Il y a des capteurs en fait, qui sont mis en place, qui sont transmis, et les informations sont transmises sur un serveur à l'Université de Savoie. On collecte la température de l'eau. Alors, pour la petite histoire, les capteurs qui sont très près du glacier en fait, enregistrent une température de l'eau pratiquement constamment voisine de 0 degré, hein, inférieure à 0,5 degré. Et la hauteur d'eau, elle fluctue journalièrement. Donc ici, c'est un jour. Tous les jours, en fait, on a un étiage. Et tous les jours, on a une crue. C'est la fonte du glacier sous l'effet de la température. Donc le glacier aussi, ou les torrents sous-glaciaires sont quelque chose de très efficace pour l'érosion. C'est parce qu'ils sont soumis à des crues tous les jours. Ce qui est intéressant d'ailleurs si on veut étudier l'influence des crues. Donc, pour résumer tous ces temps de mesure sur ces différents torrents, on peut calculer des taux d'érosion moyens en divisant le flux de sédiments par la surface drainée. Donc, on a compartimenté en fonction de notre analyse du circuit de l'eau à travers le glacier et des différents torrents. Donc on voit que dans cette partie-là, l'érosion est de l'ordre de 0,4 mm par an. Ici, elle est un peu plus forte, mais elle est de l'ordre de 0,6 mm par an. Et au cours du temps, en fait, l'exportation des sédiments se fait essentiellement par le cycle journalier, par ces crues journalières. On a aussi des crues en début de saison qui transportent beaucoup d'eau, mais on a aussi des événements en fin de saison. Là, ce n'est pas tellement des crues où la quantité d'eau augmente, c'est le système, les torrents sous-glaciaires vont se déplacer, donc transporter plus de matière. Et puis, il y a aussi les orages, hein, les précipitations qu'on va voir s'exprimer. Et par-dessus ces processus qui sont des processus usuels, il y a des événements extrêmes qui se produisent. Les événements extrêmes dans un contexte glaciaire comme le glacier des Bossons, c'est des grandes chutes de sérac. Il y a 2 ans, le front du glacier s'est écroulé. Mais il y a également d'autres choses. Il y a des poches d'eau qui se produisent. Des poches d'eau sous le lac, sous le glacier, et qui se rompent parfois. Ici, une poche d'eau a donc rompu en 2014. Vous voyez en amont, le glacier est juste là dans le brouillard. Donc en amont, on a vu les débits augmenter considérablement. Ici, on est au niveau du tunnel du Mont Blanc. Le torrent ici est déjà très chargé. Non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Alors, ce torrent très chargé, en fait, voilà, vous le voyez. Si vous regardez en détail, vous voyez qu'il transporte parfois des blocs là, qui sautent. Et après, faut être un tout petit peu patient. Vous regardez vers l'amont ce qui se passe. En fait, ça a été un peu rapide, mais voilà. Alors, cette crue, en fait, elle a déstabilisé en fait l'île de la rivière. Et ce qu'on voit, c'est que tous les galets se sont mis à se déplacer dans ce qu'on appelle une lave torrentielle, qui se déplace très rapidement. Mais en fait, ceci dit, en termes d'érosion, ce n'est pas vraiment de l'érosion du substratum. La lame d'eau, elle entraîne les blocs stockés dans la gorge. On nettoie ce qui a été déposé antérieurement et on le redépose un peu plus en aval. Parfait. Donc, en résumé pour le Mont Blanc, les parties hautes du Mont Blanc sont protégées par la glace froide. Le Mont Blanc monte actuellement à une vitesse de l'ordre de 1,5 mm par an. Et les parties basses des glaciers érodent à moins d'un millimètre par an. Alors vous faites un bilan. En fait, on en conclut que le Mont Blanc actuellement se porte bien. Il a plutôt tendance à grandir. Donc pour conclure, alors, qu'est-ce que c'est qu'une montagne très jeune? C'est l'exemple du Nanga Parbat, avec un relief stationnaire sous l'effet d'un équilibre dynamique entre surrection et tectonique. Alors le Mont Blanc, c'est déjà une histoire beaucoup plus compliquée, hein, parce que la vitesse de surrection est beaucoup plus faible, et pourtant son relief est en train d'augmenter. Et par rapport à l'histoire qui a été racontée ce matin, je n'ai pas de lien entre la surrection actuelle et l'histoire de la tectonique de convergence. Par contre, à un moment, il a été parlé de l'asthénosphère, et donc la surrection du Mont Blanc actuel, il faut la chercher très profondément. Et peut-être... Alors, pour conclure par rapport à mon titre initial, c'est qu'il y a une grande variété de processus élémentaires à prendre en compte, mais qu'on a des vitesses d'évolution qui varient énormément, de moins de 1 mm par an à plus du mètre, de moins de 1 mm par siècle à plus du millimètre par siècle, plus du mètre par siècle, pardon. Enfin, les processus catastrophiques très souvent remobilisent les sédiments. C'est plutôt de transport catastrophique que de l'érosion catastrophique. Alors tout ça conduit à une très grande variété de paysages. Voilà, je vous remercie.
Je voudrais savoir si vous avez le même équilibre à l'Himalaya de l'Est, là où vous avez des grands rivières, comme à l'Ouest.
Alors, l'Himalaya, effectivement, il y a deux syntaxes à l'Est et à l'Ouest qui terminent la chaîne. D'un côté, il y a le Nanga Parbat, et de l'autre côté, il y a un autre massif, aussi traversé par une très grande rivière. Et on a là aussi une zone de surextraction très intense. Et où les pentes sont aussi sont très raides. Donc pratiquement, le symétrique du Nanga Parbat existe à l'est, mais à l'extrémité est. Par contre, le centre de la chaîne, c'est la dynamique est très différente.
C'est juste, quand vous avez parlé des climats chauds, vous avez énormément insisté sur l'érosion chimique oui. qui était associée. Et donc après, vous n'avez plus rien dit. Est-ce qu'on arrive là aussi à opposer, aussi strictement que ça peut donner l'impression, une érosion qui est essentiellement chimique sous ces climats chauds avec les cas que vous évoquez après, qui sont un climat extrêmement froid avec une...
D'abord, je ne suis pas très à l'aise pour répondre sur ce type de questions, mais en fait, j'ai choisi de simplifier mon discours, mais effectivement, l'altération forme un potentiel pour des érosions physiques importantes, en fait. Si on a une période d'altération très longue, on va former des sols très épais, qui ne seront peut-être pas beaucoup érodés, physiquement, et puis un jour, pour une raison différente, la tectonique évolue un peu, on se met à inciser dans ces zones où les sols sont très épais. Alors là, on a un potentiel d'exportation énorme. D'un seul coup, on va lessiver physiquement tous ces sols, qui peuvent faire des dizaines de mètres. Et donc là, en une période de temps très brève, par contre, on a un signal érosif très intense. Mais je vous en ai pas parlé pour simplifier la chose, mais effectivement, il y a un couplage entre l'érosion physique et l'érosion chimique qui est important.
D'autres questions? Dans ce cas, merci beaucoup. Fin de session.